Radio Champeau.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Champeau sur Radio Albigès. Et alors au programme aujourd'hui, on reçoit une association, donc TK, qui est une association étudiante à la fac. Ensuite, vous écouterez une chronique d'histoire sur Jean-François Champollion, le seul, l'unique. Et enfin, on vous fera une petite sélection maison de ce qu'il y a à faire en ce moment à Albi, ça va être sympa. Bon, on retrouve Guillaume pour son interview avec TK.
Merci Alice. Du coup, aujourd'hui, nous sommes avec Siloé et Mélanie, qui sont la présidente et la secrétaire de l'association TK, qui propose aux étudiants du campus des cours de théâtre. Bonjour Siloé et Mélanie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre association? Quel est son rôle sur le campus?
Alors, l'asso TK, donc, comme tu l'as dit, c'est des cours proposés tous les mardis soirs avec un professionnel. Donc là, en juin, on va avoir trois représentations qui ont été travaillées pendant tout le long de l'année. Et en plus, tous les mois, on propose un café impro tous les lundis soirs où ce sont des gens de l'association qui jouent devant un public.
Et du coup, les cours, ça se fait à quel moment de la semaine?
Le mardi soir, de 19h30 à 21h30 au foyer de la fac.
Et du coup, ça se compose en comment un peu les cours vous faites? De l'improvisation, vous essayez d'écrire, je sais pas.
Donc en tout début d'année, on fait que de l'impro parce qu'on n'a pas encore les textes. Et à partir de novembre, on a des textes. Donc là, on en a pris 3 cette année. Et à partir de là, c'est que les répétitions, les mises en place, la mise en scène, le décor, enfin tout ça, tout le travail qu'il y a autour pour arriver à la représentation en fin d'année.
Vous faites tout, les décors, c'est vous qui les faites?
Non, idéalement, on les achète avec l'argent de l'asso, mais c'est vrai que si jamais il faut faire des choses, c'est bien qu'on s'y prenne tôt, comme ça au moins, on le sait.
C'est quoi les pièces que vous avez choisi de faire cette année?
Alors, il y a Lysistrata d'Aristophane, donc ça c'est antique. Après, on a deux nouvelles pièces, donc le Carnaval des Dupes qui a été écrite par la compagnie de notre professeur, et un plan sur la comète qui a été écrite par une connaissance de notre professeur, mais on ne connaît pas les noms.
Et du coup, ça vous arrive de décrire vos propres pièces aussi?
L'idée a été émise l'an dernier, mais il n'y a pas eu de continuité en fait. Et c'est vrai que quand on se retrouve qu'une fois par semaine et qu'il y a les cours entre et tout, c'est assez compliqué. Et comme il y a un grand changement chaque année, c'est jamais les mêmes personnes. On a essayé, ça n'a pas fonctionné et on espère qu'on pourra essayer les autres années, mais on verra.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe un peu qui entoure cette association, un peu le bureau Voilà, les différents types de personnes qui sont membres de l'association.
Le bureau déjà, avec la trésorière, c'est la deuxième année que nous sommes là. Mélanie, elle est toute nouvelle, mais elle était déjà là l'an dernier en tant qu'adhérente, donc elle s'y connaît déjà. C'est une association qui regroupe énormément de filières différentes. On a des histoires, des physiques, des lettres, des géographes, des sociologues. Tout, en fait. C'est ouvert vraiment à tout le monde, tous les niveaux. On peut avoir des masters comme les 3 années de licence. Voilà.
Comment est-ce qu'on fait pour adhérer à cette association? Par exemple, si dès la rentrée prochaine, comment ça se passe?
Vous venez à un cours du mardi soir et si ça vous plaît, vous restez, vous payez l'adhésion et on vous accepte volontiers.
Qui est de combien?
45 euros.
Pour payer le professeur, je suppose.
Oui.
Du coup, ouais, c'est un peu comme ça que vous financez ou est-ce que vous financez d'une autre manière?
Donc on se finance majoritairement comme ça et après avec les cafés impro, on tient des buvettes, donc là-dessus on récupère aussi de l'argent et aussi grâce au FSDIE de la fac qui nous... Le FSDIE c'est la commission de la fac qui accepte de nous prêter de l'argent, même de nous en donner, pour nous aider à continuer nos actions culturelles. Et donc là, c'est la deuxième année, en tout cas, nous, que nous demandons. Les autres années, les bureaux aussi avaient demandé, mais comme c'est que cette deuxième année, je suis là. Et ils ont accepté, et donc grâce à ça, on peut payer le prof, en plus de proposer d'autres animations sur la fac.
Et il y a du monde qui participe, du coup, à ces cafés impro et aux cours de théâtre?
Oui, alors cette année, c'est exceptionnel, on a une démographie super. On est parti, quand je suis arrivée, on était une dizaine, on est une trentaine cette année. Et le Café Impro, le public se multiplie également. Et en plus, on a d'autres comédiens hors association qui viennent participer pour jouer au Café Impro. Donc, ouais.
Et du coup, comment vous arrivez un peu à attirer toutes ces nouvelles personnes, vous le savez? Ou il y a une technique de communication particulière, je ne sais pas?
Mais on a des super affiches cette année, elles ont été super chouettes. Et après, c'est surtout du bouche à oreille, enfin, les gens y reviennent, ils amènent leurs amis, leur famille. Du coup, on a, c'est du bouche à oreille la plupart du temps.
Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cet asso?
En fait, les assos et surtout TK, c'est super chouette parce que en fait, ça permet de rencontrer des gens, de rencontrer des étudiants sans être dans la licence et dans la scolarité. Et du coup, on crée pas mal de liens, on rencontre pas mal de gens qui sont pas forcément de la même licence que nous. Et du coup, on crée de nouveaux liens, on rencontre de nouvelles personnes. Puis du coup, ça nous permet de sortir et puis de s'amuser.
Vous faites des sorties après les cours?
Oui, toutes les semaines.
J'ai eu vent de certaines choses.
Ah, nous en parlerons après l'émission si vous voulez.
Et plus précisément, le théâtre, vous en faisiez avant de rentrer dans TK ou est-ce que vous en faites à côté en plus dans une compagnie?
Moi, j'en ai fait avant et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré le professeur qui fait ici aussi. Donc, c'est ça qui m'a fait continuer.
Moi, j'en ai fait un peu au collège. Puis après, du coup, j'avais ma meilleure amie qui est du coup la trésorière. Je l'ai vue jouer. Je suis allée au Café Impro avant et du coup, ça m'a donné envie d'être adhérente puis de rentrer le monde dans le bureau.
Alors du coup, qu'est-ce qui vous plaît un peu dans le théâtre? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans vos études ou autre?
Bah du coup, il y a l'impro et il y a les représentations. Enfin, pour moi, c'est complètement différent. L'impro, ça va chercher plus en nous-mêmes et ça va demander plus d'assurance. Les représentations, c'est aussi un travail de groupe. Moi, je préfère l'impro, perso, mais les représentations, c'est chouette aussi. Et après, ça va travailler la confiance en soi, l'assurance et puis c'est la créativité aussi. Puis c'est aussi beaucoup de partage.
Du coup, ça permet un peu de s'entraîner à être confiant pour soi, par exemple pour les oraux, de partiels, j'en sais rien.
Bah oui, tout à fait. Ne serait-ce que par exemple, poser sa voix et savoir parler comme il faut, articuler, ça aide beaucoup, étant donné que si on ne fait pas ça pendant une représentation de théâtre, le public ne comprend rien. Et donc, c'est super pour toi. Moi, ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Et même maintenant, j'ai des amis qui me demandent de faire des cours d'articulation, tellement eux, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est très drôle.
Et par rapport aux représentations, comment est-ce que vous faites pour définir qui aura le rôle, enfin qui aura le premier rôle, le second rôle, celui qui jouera l'arbre au fond?
Alors il n'y aura pas un d'arbre, mais ça se joue. En fait, c'est beaucoup sur la confiance du professeur qui choisit les rôles et comme il nous connaît, il vient nous voir, il nous dit je pense que ce rôle tira, donc il nous donne le rôle. Alors on a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents du rôle qu'il a eu, mais à chaque fois à la fin d'année, la personne était très contente de ce rôle. Et pareil, sur les 5 ans que je le connais, j'ai jamais été déçue des rôles qu'il m'a imposés. Donc là-dessus, je pense que ça se passe super bien pour ces rôles, quoi.
D'ailleurs, vous avez dit que c'était en juin, mais vous avez des dates plus précises sur les 3 représentations?
On a une fourchette, ça sera la semaine entre le 18 et le 20 juin. Mais on attend la confirmation de l'administration de la fac pour voir pour les salles.
Je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais d'habitude, vous êtes où pour les répétitions et pour l'atelier théâtre?
Alors d'habitude, on est au foyer, et là, comme ça va fermer, on a aussi fait des demandes pour avoir des salles.
Ah oui, bien sûr.
Message subliminal.
Donc vous disiez que l'inscription à l'année, c'était 45 euros, c'est ça?
Oui.
Et c'est quand même beaucoup moins cher qu'un cours de théâtre classique avec un prof. Comment est-ce que vous faites pour arriver à avoir des prix aussi réduits par rapport à des cours de théâtre classique, par exemple en MJC ou des choses comme ça?
Comme on a dit, parce qu'on a l'aide du FSDIE et aussi tout ce qu'on fait autour. Et également parce que, comme c'est proposé à des étudiants, ils n'ont pas tous forcément l'argent pour payer un professionnel et avoir des cours de cette qualité. Donc c'est quand même une chose qu'on s'est imposée de base. Et en plus, on est en collaboration avec l'Université pour tous aussi. Donc en plus de leur proposer des cours de théâtre pour adultes, eux, ils nous aident aussi au niveau financier. Donc c'est pour ça.
Donc c'est une volonté que ce prix reste à 45 euros et n'augmente pas.
Oui.
Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de votre professeur, son parcours, qu'est-ce qu'il a fait,
son nom.
Son nom.
Alors notre professeur, c'est Guillaume Cuc. Donc il a commencé le théâtre dès ses 18 ans, il ne l'a pas quitté. Donc c'est un comédien professionnel qui fait partie de la compagnie La Clique. Et donc, il est prof à la MJC, il propose énormément de stages sur Albi et alentour, et il fait également beaucoup de représentations avec, j'ai oublié l'autre nom de le nom de sa deuxième compagnie, bon, tant pis. Et voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des représentations ces derniers temps, surtout dans le Tarn, Et après, voilà. Et en plus d'avoir notre groupe sur la fac, il a également un groupe d'adultes avec l'Université pour tous.
Et il a tout de suite accepté de participer à TK ?
Mais en fait, quand nous sommes arrivés à la fac, il était déjà. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé, comment il est arrivé là ou quoi.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à des étudiants pour qu'ils viennent à l'association, pour qu'ils fassent du théâtre ?
Bah, venez comme vous êtes, on vous accepte tous. Franchement, ouais, c'est peut-être déjà pris, mais bon, tant pis. Mais c'est vraiment génial. Un rôle est proposé à chacun. S'il veut pas jouer, bah, il jouera pas, il pourra participer à la mise en scène. Il veut proposer d'écrire une pièce, il écrira une pièce, il y aura pas de souci. Toutes les idées sont bonnes à prendre, donc nous, on accepte tout le monde.
Ah oui, donc on peut, par exemple, choisir d'adhérer à TK, mais être juste scénariste.
Oui.
Ça serait très, très stylé qu'une pièce de quelqu'un soit, une pièce d'étudiant soit jouée par TK.
Franchement, ouais, ça serait super.
Ben, venez, faut se motiver. On vous attend. Et vous n'avez pas tout à fait répondu à la question tout à l'heure. Vous faites du théâtre à côté, vous, en plus de TK ?
Alors, moi, non. Après, je trouve que ça me sert aussi parce que du coup, je suis en train de passer mon BAFA et on a beaucoup de mises en situation et il faut rentrer dans le personnage, etc. Donc, ça m'y fait penser un peu.
Et moi, non.
Et vous n'avez pas envie ou pas le temps ou pas...
C'est plus une question de temps, ouais, que d'envie.
En tant qu'association, est-ce que vous pensez que les étudiants sont suffisamment investis dans le milieu associatif ou pas assez ?
Ben, en général, là, du coup, on est sur un projet qui dure toute l'année. Donc, quand ils sont là toute l'année, ils sont assez motivés. Après, comme on est membre du bureau, on leur fait des petits rappels. On les rappelle une fois et après, ils sont là, quoi. Donc, ouais.
Mais de manière générale ? Sur les différentes associations, sur, je sais pas.
Bah après, on a de la chance d'être sur le campus d'Albi qui propose des associations étudiantes et qui en plus, les gens sont présents. Donc, d'un point ici, oui. Mais après, c'est vrai que j'entends beaucoup parler d'associations qui sont en manque de bénévoles ou quoi. Et donc, c'est assez compliqué. Donc, moi, je trouve que sur la fac d'Albi, il y en a beaucoup. Mais après, à voir.
Après, nous, on a reçu ici d'autres associations. Donc, par exemple, tous les comploteurs festifs. Et ils disaient quand même que ça manquait pas mal de bénévoles. Il y en avait, mais que ça manquait quand même pas mal. Et
vous en souffrez pas cette année qu'il y avait eu des problèmes pour trouver des bénévoles ou toi. Mais non, nous, on n'a jamais eu de problème là-dessus.
Oui, des cas, en tout cas, non.
Même l'an dernier, où vous étiez visiblement moins.
Bah, l'an dernier, on était moins, oui. Mais non, ça n'a pas manqué non plus. Mmh. On a réussi à trouver des pièces qui iraient à tout le monde aussi. Donc,
Mais peut-être le fait que vous soyez plus nombreux, est-ce que ça rend peut-être plus difficile les cours de théâtre ? Parce que peut-être le professeur, il peut moins se focaliser sur les personnes parce qu'il y a plus de monde, tout simplement.
Oui, c'est ça. Cette année, c'est très compliqué parce que comme il y a 3 pièces, le professeur est obligé d'être sur 3 pièces en même temps. Donc, c'est vrai que certaines pièces, certains mardis soirs, ne voient pas du tout le prof. Donc, c'est un gros travail en autonomie, en groupe. Donc, c'est vrai que là, le fait d'être plus, c'est plus compliqué, mais on y arrive. Après, on n'espère pas arriver jusqu'à 40, mais... On verra.
Vous avez une limite de participants ?
Cette année, non, mais notre prof nous a un peu imposé d'avoir une limite l'an prochain, donc on est en train de voir laquelle on mettra pour être sûr.
Donc il faut s'inscrire au plus vite pour être sûr d'avoir une place.
Voilà, c'est ça.
Peut-être pour conclure, vous avez un réseau social, une page Facebook, quelque chose où on peut avoir des nouvelles de vos représentations futures et des activités qui vont être mises en place ?
Oui, donc c'est la page Facebook TK, T-E-2-C-A, et voilà. Donc rejoignez-nous, on vous accepte volontiers. Ah oui, TK signifie troupe des étudiants comédiens du campus d'Albi.
Eh bien, merci Mélanie Siloué d'être venue au campus de Radio Champeau. On rappelle que tout étudiant peut venir en début d'année s'inscrire. Vous êtes normalement présent aux réunions de début de rentrée. Donc voilà, allez-y.
Merci.
Merci.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau. Après cette super interview avec TK, on va s'écouter une petite pause musicale histoire de relancer. Oh, behold the hole in my soul. Can I be filled and it cannot be sewn up. And oh, behold the hole in my heart. Devil will come for us, try to tear us apart. Overhold the hole in my tail. I tried to tell, but I guess I failed. And overhold the hole in the sky. Where's the baby bluebird go when
don't you dance? Where's the baby bird go? Won't you dance? Horns from my head, wings from my shoulders. Quick mama, look up, your baby has grown up. Horns from my head, wings from my shoulders. Quick mama, look up, your baby's gotten older. Beautiful mama, beautiful boy, beautiful girl. Beautiful earth, you were here first. Horns from my head, wings from my shoulders. Quick papa, look up. There's a ship in the mist and it's getting closer. The plane's on fire. No, I love you. Regardless of my fate.
De retour, c'était la petite pause musicale, donc on a écouté un extrait du dernier album Oh My God de Kevin Morby, c'était fort sympa. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Champeau sur Radio Albigès, et maintenant on va écouter la chronique des étudiantes en histoire, qui cette fois est sur Jean-François Champollion.
Je vais vous parler de mon sujet de VPHN, donc, qui est un cours de l'université Champollion, donc, qui s'appelle Valorisation du patrimoine. Et du coup, moi, mon sujet se porte sur Jean-François Champollion, un égyptologue de génie. Voilà. Alors, il faut savoir du coup que Jean-François Champollion, il est né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le Lot. Du coup, il provient d'une famille de libraires. Champollion, du coup, grandit parmi la littérature, les livres et le goût pour la littérature de ses parents. Il apprend à lire, d'après la légende, tout seul à l'âge de 5 ans. Mais bon, ça, on a encore un peu des doutes dessus. Et par la suite, du coup, il se rend à l'école comme tous les autres enfants. Mais très rapidement, on se rend compte qu'il a des grosses difficultés en mathématiques et dans les matières scientifiques en général, puisque ça ne le passionne pas vraiment. Et du coup, c'est son grand frère Jacques-Joseph Champollion qui prend le relais, qui se charge de son éducation, qui prend son petit frère avec lui à Grenoble quand il est âgé de 10 ans à peu près, et qui va mettre de côté les matières scientifiques et qui va développer le talent de linguiste de son petit frère, puisqu'il est passionné par les langues. Et ne serait-ce qu'en très peu de temps, peut-être en 5 ans, quelque chose comme ça, il réussit à apprendre le latin, le grec et l'hébreu. Et par la suite, donc son frère Jean-Joseph va confier l'éducation du coup de Jean-François à l'abbé Ducé, qui va lui aussi lui continuer à lui enseigner tout un tas de langues. Et à l'âge de 18 ans, Champollion parle 8 langues. Ce qui est relativement impressionnant pour l'époque, et puis même pour un garçon aussi jeune, puisque beaucoup de scientifiques et même de professeurs de lettres et de langues à cette époque-là n'ont pas un panel aussi large au niveau des langues. Et donc, du coup, très rapidement, Champollion va se faire remarquer de par ce talent-là. Et il va même devenir professeur à l'âge de 18-19 ans, donc dans une université à Grenoble. Et donc, par la suite, il va accompagner son grand frère, du coup, Jacques-Joseph, qui travaille, lui, sur l'Égypte. Et il va l'accompagner dans ses recherches-là, puisque Jacques-Joseph est un passionné donc, d'égyptologie, même si à cette époque-là, ça n'existe pas encore. Il est passionné, du coup, par l'Égypte, la culture, la langue, etc. Et il va transmettre cette passion-là à son petit frère. Bon, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'à ce moment-là, l'Égypte, c'est le sujet à la mode parmi les chercheurs et puis même de manière extrêmement générale grâce aux expéditions menées par Napoléon quelques années auparavant. Donc maintenant, tout le monde s'intéresse à la culture, aux langues, aux dieux, aux pharaons, etc. Et donc, il va y avoir énormément de recherches qui ont été menées du coup sur ce pays, et c'est du coup comme ça qu'on va réussir à découvrir la pierre de Rosette, qui a été découverte en 1799 dans le village surnommé Fort Julien, donc du coup en Égypte, et qui va être ramenée du coup par Napoléon Bonaparte. Donc cette pierre-là de Rosette, c'est le mystère du moment, puisque tout le monde essaye un petit peu de la traduire. On distingue trois langues, donc du coup des hiéroglyphes forcément, du démotique et du grec ancien.
Quoi la différence entre les hiéroglyphes et le démotique?
Oui, excusez-moi, oui. Donc le démotique, en fait, c'est un dérivé des hiéroglyphes, mais c'est quelque chose de plus simple qui servait à la population en Égypte à communiquer et même à écrire en fait de manière plus simple pour que tout le monde comprenne. Alors que les hiéroglyphes sont vraiment des symboles plutôt qui représentaient des sons et qui étaient gravés sur qu'on utilisait vraiment pour des monuments ou des tombeaux, enfin quelque chose vraiment de très important. C'est pour ça qu'on a retrouvé donc du coup des hiéroglyphes sur à peu près tous les tombeaux des pharaons, et on utilisait l'écriture à cette époque-là. Enfin, en écrivant son nom sur son tombeau, on pouvait comme ça de cette manière-là rester éternel. C'est à ça que servait l'écriture surtout à ce moment-là en Égypte. Donc voilà la différence entre démotique et hiéroglyphes. Du coup, on a fait appel, lorsque cette pierre a été découverte, elle a été amenée donc, du coup, en Angleterre. Alors, me demandez pas pourquoi elle s'est retrouvée là-bas, je ne sais plus. Elle est toujours là, elle est toujours en Angleterre d'ailleurs, elle est au British Museum à Londres, et elle a suscité énormément d'attention, cette pierre-là, puisque tout le mystère, c'était donc du coup les hiéroglyphes, et tout le monde voulait un petit peu comprendre ce que racontait cette pierre, etc. Et du coup, il y a eu beaucoup de chercheurs qui s'y sont intéressés, mais en France particulièrement, on a demandé à Champollion de travailler sur cette pierre-là, puisqu'il parlait donc du coup, comme je l'ai dit, donc 8 langues, ce qui était un avantage absolument énorme, puisque lui, il parlait donc du coup, il parlait très très bien le grec ancien, mais surtout, il était un des seuls et des très rares en France à parler le démotique, qu'il a appris plus ou moins tout seul dans ses livres. Et du coup, ce qui a fait que ça a été vraiment lui le mieux placé en fait pour pouvoir se caser sur ce sujet-là. Et ça a été le premier, on va dire ça comme ça, c'était celui vraiment qui a compris, le premier qui a compris que la pierre de Rosette, en fait, que les trois écritures voulaient dire la même chose. Et donc, ce qui a quand même pas mal aidé dans les recherches. Et donc, du coup, le 14 septembre 1822, il va courir auprès de son frère pour lui dire, donc du coup, la fameuse phrase que tout le monde connaît plus ou moins, « Je tiens l'affaire », pour annoncer donc qu'il a réussi à décrire n'importe quoi, à déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, suite à cette annonce, il est tombé dans le coma, puisqu'il n'en dormait plus, il n'en mangeait plus. Oui, il est vraiment tombé dans le coma pendant 5 jours. Il devenait complètement malade, il dormait plus, il mangeait plus, il respirait à peine, et pour travailler sur ça, une fois qu'il a compris, ben pouf, coma. 5 jours après, il s'est réveillé et l'information a eu le temps de diffuser un petit peu partout. Et du coup, ce qui a suscité quand même la jalousie de pas mal des autres chercheurs qui étaient sur l'affaire, et puis même de plein de scientifiques en général, qui ont cherché à décrédibiliser de partout Champollion, puisqu'il était extrêmement jeune, et donc du coup, on le prenait pas vraiment au sérieux, et on décrédibilisait énormément ses travaux. Mais bon, suite au déchiffrage des hiéroglyphes, il a quand même reçu une consécration puisqu'il a sa place à l'Académie des Belles Lettres. Enfin, voilà, à l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Et en 1826, il est nommé conservateur chargé des collections égyptiennes au musée du Louvre, ce qui lui permettra par la suite, quelques années plus tard, de partir en Égypte. Mais avant de partir en Égypte, lui, il a l'occasion de partir en Italie, puisque le roi de Piémont-Sardaigne a acheté une collection dite la Drovettiana au consulat de France, au faux-consul de France, qui s'est donc été Bernardino Drovetti. Et la collection est déplacée du coup à Turin. Du coup, le roi de Piémont-Sardaigne a demandé à Champollion de venir faire le catalogue de cette collection et de plus de traduire certains papyrus qu'il avait dans la collection, en fait, tout simplement. Donc, c'est en 1825 que Champollion va du coup se déplacer en Italie à Turin pour traduire justement donc ces papyrus et faire les collections et faire les catalogues pour la collection. Puis ensuite, il va être appelé par le pape au Vatican pour à peu près faire la même chose, pour traduire des papyrus, observer les collections, etc. Et c'est surtout un moyen pour Champollion de poursuivre ses recherches sur l'Égypte et d'en apprendre un petit peu plus et de confirmer ses théories. Et ses voyages du coup en Italie, ça lui aura quand même permis de comprendre comment fonctionnait le système de numérologie en Égypte et aussi de trouver le nom de certains pharaons, plutôt connus, voilà, relativement connus même, comme Toutankhamon, etc. Et donc du coup ensuite il rentre en France, mais en France il veut pas vraiment y rester parce que l'ambiance est pas très très... pas super pour lui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chercheurs, ils n'apprécient pas vraiment le fait que Champollion soit jeune et qu'il réussisse. Du coup, on essaye de le déculpabiliser, enfin, de le culpabiliser un petit peu comme on peut sur absolument tout. Et du coup, lui, son rêve absolu, c'est du coup de partir en Égypte, ce qui est un rêve qu'il va pouvoir réaliser en 1828, pardon, excusez-moi. Donc, dans une expédition franco-toscane. Et donc, il va partir Champollion avec son équipe, donc avec des ingénieurs, avec des archéologues et avec des dessinateurs aussi. Puisque donc sur place, il va pouvoir étudier des fouilles et il veut absolument perdre aucun souvenir. Donc, du coup, il va passer énormément de temps à dessiner absolument tout ce qu'il voit pour que tout reste en tête et pour pouvoir le montrer au reste du monde. Ce qui fait que donc, dès qu'il arrive en Égypte, il consulte le roi d'Égypte qui donne accès à Champollion et à son équipe le droit d'aller sur certaines fouilles. Et là, pour Champollion, c'est l'apothéose. Il va donc sur les sites, il pourra même passer certaines nuits dans des sarcophages. Enfin, il devient absolument fou. Il peut avoir absolument tous les hiéroglyphes sur les sarcophages. Il arrive à voir à peu près tous les monuments qu'il a lus dans ses livres. Il peut les voir en vrai. Donc, il passe avec son équipe, il passe de très très longues semaines sur chaque site parce que il veut, comme je l'ai dit, donc du coup, il veut dessiner absolument tout pour ne rien perdre. Et du coup, c'est un travail extrêmement minutieux puisque vu qu'il y a des archéologues, alors du coup, ils vont chercher absolument n'importe quelle pièce, ils vont chercher des œuvres d'art, ils vont chercher donc d'autres sarcophages, etc. Donc, ce qui fait que ça prend plusieurs semaines. Et il va y rester donc 15 mois en Égypte. Et ensuite, il va rentrer en France. Et son rêve, c'était donc du coup d'y repartir au plus vite, sauf qu'entre-temps, il décède. Voilà, et oui, il décède en plus très jeune, il avait, je crois, 40 ans, quelque chose, 39 ou 40 ans, je ne sais plus exactement. Il meurt en 1832 à Paris, et d'une maladie, parce qu'il était extrêmement... il avait une santé extrêmement fragile, Champollion, et il meurt, je crois, de la tuberculose, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que, genre, même en plus, quelques mois avant sa mort, il est complètement paralysé, il ne peut plus parler, donc il peut pas continuer ses recherches, il est vraiment au bout de sa vie, c'est le cas de le dire. Et donc c'est absolument dramatique. Et il a même pas pu, il a pas pu publier de son vivant toutes ses recherches. C'est son frère qui le fera quelques années après sa mort. Et donc du coup, c'est Champollion avec toutes ses recherches qui a créé vraiment l'égyptologie, c'est-à-dire cette science qui étudie l'Égypte antique. Et donc du coup voilà, ces voyages entre l'Italie et l'Égypte auront permis à Champollion de non seulement donc du coup d'en apprendre plus sur ben voilà, donc du coup sur les pharaons, etc. Mais surtout, il pourra révéler un véritable alphabet hiéroglyphe et donner vraiment le sens de chaque hiéroglyphe, expliquer les sons, l'importance, pourquoi qu'est-ce que représente tel dessin, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce dessin plutôt que celui-là. Et aussi, il a aussi parlé beaucoup des divinités égyptiennes, puisqu'il y en avait énormément qu'on connaissait absolument pas. Et c'est lui qui a permis surtout à ce niveau-là de découvrir pas mal d'identités égyptiennes.
Merci beaucoup Noémie.
Avec plaisir.
On rappelle quand même que Champollion, c'est celui qui a donné son nom à la fac, oui. Où on est en ce moment et où on réalise cette émission de radio. Donc c'est bien d'avoir un peu la genèse du personnage, quoi.
Moi j'ai une petite question là. Dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous êtes allé au musée Champollion à Figeac ?
Pas du tout. C'était complètement prévu à l'origine, sauf qu'on a eu des gros problèmes d'emploi du temps. Et ce qui fait que Figeac, c'est à 3h.
2h30.
À 2h30, 3h d'Albi, donc 6h de voiture. Ça, il faut avoir beaucoup de choses, donc j'ai pas eu l'occasion, mais peut-être un jour, on sait pas.
Moi j'avais une autre question aussi, il me semble me souvenir de mes cours d'histoire, donc ça commence à dater un peu, mais il n'y a pas une espèce de mystère autour de la pierre de Rosette, parce qu'on ne sait pas tellement d'où elle sort, on ne sait pas qui l'a écrite, ou il n'y a pas un truc comme ça autour de cet objet?
Ben en fait, il y a un gros mystère autour de cette pierre-là, parce qu'on ne sait pas véritablement, comme vous l'avez dit, donc qui c'est qui l'a écrite, etc. Mais en soi, on ne s'est pas véritablement attardé sur d'où elle venait, pourquoi est-ce qu'elle a été placée ici, ou pourquoi est-ce qu'on a écrit ce qu'on a écrit. Mais plus, vu que le gros mystère, c'était les hiéroglyphes, ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça raconte, est-ce que c'est en train de nous découvrir, est-ce que c'est une recette miracle ou je ne sais pas quoi sur cette pierre. C'était vraiment en fait ce que les écritures voulaient dire en elles-mêmes qui intéressait plus que la provenance de la pierre.
Merci beaucoup en tout cas.
Avec plaisir.
Et donc toi également, on peut trouver ces recherches, le travail de tes recherches sur internet.
Oui, c'est ça, sur le blog du VPHN, du coup Valorisation du patrimoine numérique.
Humanité
numérique, exact, merci. Donc, qui du coup est en lien avec le site de l'Université Champollion et avec lequel du coup on peut retrouver absolument tous les travaux qui ont été faits cette année et l'année dernière par les étudiants, donc du coup de deuxième et de première année d'histoire. Et donc le mien y figure, voilà.
Okay. Eh bien, super. Merci beaucoup. Et puis, merci du coup à toutes les étudiantes qui sont venues faire une chronique pour présenter ces travaux. C'était super intéressant. Et sûrement que ça continuera à la saison prochaine de Radio Champo, à la rentrée 2019. Donc, avec plaisir. Si vous êtes là encore, on vous recevra sans problème.
Super.
Merci.
Merci beaucoup pour cette super chronique. On a appris vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Et maintenant, alors, on accueille un invité surprise qui sera sûrement là l'an prochain, Loïs.
Bonjour à tous.
Et on va faire tous les deux l'agenda de ce qu'il y a à faire en ce moment.
Radio Champo, la radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champo. Alors, le 18 mai au Noctambule, il y a la MJC qui organise le concert des premières scènes. Donc en fait, le principe, c'est qu'il y a 3 ou 4 groupes de la région ou du département qui sont des groupes amateurs et qui ont l'occasion de se présenter en une soirée dans des conditions professionnelles. Ça se déroulera au Noctambule et l'entrée est libre.
Voilà, et nous aurons également le 18 mai qui se tiendra le concert Harmonie d'Albi à 20h30 à l'Athénor. Donc l'orchestre jouera des musiques de films, de séries et de jeux vidéo. Donc si vous êtes passionné de jeux vidéo et si vous aimez l'orchestre, je vous conseille d'y aller. Ça promet d'être vachement bien. Et c'est entrée à participation libre.
Le petit battle des soirées, qui va aller écouter qui ?
Exactement.
Et c'est déjà la fin de cette saison. Alors on est très triste de vous quitter, mais vous en faites pas, on se retrouve l'an prochain, ça va être chouette. Il y aura plein de nouvelles émissions, de nouveaux chroniqueurs. Héloïse.
Exactement, je serai là pour un nouveau début et ça va être cool.
Et on a été ravis, merci de nous avoir écoutés à bientôt.
À bientôt.
C'était Radio Champo sur Radio Albigès. À l'an prochain.
Et oui, c'est déjà la fin de Radio Champeau sur Radio Albigès. On en verserait presque une petite larme. Enfin, la fin pour cette saison en tout cas, puisque Radio Champeau revient dès la rentrée étudiante de 2019. Nous lançons un appel. Si jamais vous êtes intéressé ou vous connaissez une personne qui sera étudiant ou étudiante sur la faculté Champollion d'Albi à partir de la rentrée prochaine et qui souhaite participer à l'atelier, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter à l'adresse radioalbigès@gmail.com pour nous faire part de votre souhait de participer à cet atelier, histoire d'organiser déjà la rentrée prochaine. Un grand merci et un grand bravo surtout pour les étudiants et les étudiantes qui ont participé à cet atelier, particulièrement Alice et Guillaume pour leur professionnalisme et leur assiduité. Remercions également Dylan et Alexandre qui étaient avec nous au début de l'aventure, et puis une petite dédicace à Loïs qui nous a rejoint pour la toute dernière émission et qui nous permet de faire la transition avec la saison prochaine qui va arriver sur les ondes de Radio Albigès. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, d'être toujours fidèles à notre radio. Si vous voulez nous faire des remarques, nous dire ce qui va, ce qui ne va pas à l'antenne, n'hésitez pas, nous sommes toujours en attente de vos retours. Vous pouvez nous écrire soit par mail à l'adresse radioalbigès@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 05 63 60 60 36. Vous pouvez aussi laisser un message sur la boîte vocale de Radio Albigès si vous souhaitez qu'il soit diffusé à l'antenne dans notre magazine hebdomadaire, comme un lundi, sur la boîte vocale. Donc le numéro, c'est le 05 63 77 61 75. On rappelle que vous pouvez réécouter les podcasts de toutes les émissions que vous avez loupées en passant par le www.radioalbigès.com à l'onglet podcast, ou bien si vous souhaitez spécifiquement les émissions de Radio Champeau en vous rendant sur la page Facebook de Radio Champeau où sont relayés tous les podcasts des émissions. Merci à vous, très bonne écoute et à bientôt.